Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui combine esprit rieur et excellence journalistique. Une excellence journalistique qui a probablement trouvé ses plus belles ambassadrices dans les personnes d'Eva Rock et Céline Dacosta. Céline qui hier, après seulement 15 ans de carrière dans la radio, a découvert quelque chose d'important. Elle s'était souvent demandé ce que c'était que cette petite diode tantôt rouge, tantôt verte sur la table devant elle.
Le rouge antenne, on m'avait dit, en fait, c'est quand ça veut dire qu'on est en rouge.
Ouais, ça veut dire ça. Quant à Eva Rock, que dire de cette professionnelle qui, même à 5h du matin, réussit à faire des phrases sujet-verbe-complément sans se planter. Bon, sauf évidemment quand il lui manque le sujet, le verbe, voire le complément.
Est-ce que vous ne donnez plus à des associations alors que la 34e compagnie, j'allais dire la 34e... La 34e, je vais pas trouver le mot, c'est pas grave.
Bon non, on n'est plus à ça près, pensez bien. Heureusement, Debout les copains, c'est aussi le regard de l'historien. Emmanuel Macron a annoncé hier une grande concertation populaire sur la transition énergétique, mais ce principe de la concertation populaire, à quand ça remonte exactement? C'est la question à laquelle répondra le monsieur Histoire d'Europe 1, Fabrice Dalméda.
Merci d'écouter Europe 1, nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 novembre. Et il est 6h, très bon réveil. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mercredi 28 novembre, voici le journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin,
Céline. Les annonces d'Emmanuel Macron jugées insuffisantes par les Gilets jaunes. Une nouvelle manifestation est programmée samedi à Paris sur les Champs-Élysées. Un constat étonnant, un quart des arrêts de travail délivrés par les médecins ne sont pas respectés par les patients. Les cadres et les dirigeants d'entreprises renoncent à s'arrêter. Et puis le PSG n'a pas le droit à l'erreur ce soir face à Liverpool en Ligue des Champions. Hier soir, Lyon et Manchester City ont terminé sur un nul de partout. Jérôme Lacroix y revient en détail dans son journal des sports.
Europe 1.
Dès la fin de l'intervention d'Emmanuel Macron, hier, les Gilets jaunes étaient fixés sur la suite à donner à leur mouvement. Ils ne comptent pas s'arrêter là. L'un des porte-paroles reçus hier par le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a appelé à redescendre dans la rue samedi prochain à Paris, sur les Champs-Élysées, là où de violents affrontements se sont produits il y a 5 jours. Emmanuel Macron hier a réaffirmé que la taxe sur le carburant ne serait pas abandonnée, mais temporairement suspendue lorsque le prix du pétrole serait en hausse. Philippe dénonce une manœuvre du chef de l'État, il porte un gilet jaune à Hazebrouck dans le Nord.
Ça n'amènera rien du tout. Je pense juste qu'il veut faire traîner les choses en espérant que le mouvement va s'étouffer, qu'on ne va plus entendre parler des gilets jaunes, c'est tout. Il va essayer de petit à petit que ça se tasse et puis que plus personne n'en parle, quoi. Les gens, forcément, au bout d'un mois, 2 mois, ils vont se lasser, ils vont voir qu'ils n'obtiennent rien et puis il y aura eu gain de cause quand même.
Il dit pourtant entendre la colère des gens.
Ben oui, mais bon, il n'y a pas notre place, il n'y a pas les mêmes revenus. Alors bon, il n'y a rien lâché, on ne lâchera rien non plus. Mais là, comme on voit qu'il se fout vraiment du monde, ben là, je crois que la colère, elle va s'amplifier au lieu de s'apaiser.
La détermination de Philippe au micro-européen de Lionel Gougelot, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est quant à elle attendue de pied ferme sur l'île de la Réunion. Elle arrive ce matin. Elle a promis de se rendre dès son atterrissage à un barrage pour aller à la rencontre des Gilets jaunes. Les entreprises d'Outre-mer qui vont par ailleurs bénéficier d'une exonération supplémentaire des charges sociales à hauteur de 130 millions d'euros. Objectif, relancer l'emploi et lutter contre le chômage. Un amendement a été adopté en ce sens hier soir à l'Assemblée nationale.
Vous le savez, depuis le début de la semaine, nous sommes à Mourenx, ville des Pyrénées-Atlantiques où le taux de chômage est particulièrement élevé.
Mourenx qui ressemble à beaucoup d'autres villes françaises où les centres-villes sont désertés. Mourenx où le plus grand magasin a fait faillite il y a 3 ans, entraînant dans sa chute une dizaine de petits commerces. Depuis, la mairie se bat pour attirer et ouvrir de nouvelles boutiques et ça marche. Mais il faut s'accrocher, le reportage de Théo Manval pour Europe 1.
C'est aujourd'hui un restaurant, celui de Céline et de son mari. Il y a encore 2 mois, c'était le local vide d'une ancienne boucherie fermée faute de repreneur. À Mourenx, une dizaine de commerces ont baissé le rideau depuis 3 ans. Alors pour stopper l'hémorragie, la mairie a décidé de racheter plusieurs locaux, de faire signer un bail précaire à très faible loyer à ceux qui voulaient se lancer.
Vous payez combien de loyer ?
350 euros par mois, 50% en dessous du prix du marché.
Et sans ça, vous auriez pu vous installer ?
Non.
Et aujourd'hui, l'affaire, elle tourne, on est là à midi, il y a du monde.
Les gens qui habitent dans les petites villes comme la nôtre, ils ont envie que leur ville soit vivante, que les commerces soient ouverts. Et on a l'impression que les pouvoirs au-dessus, ils font tout le contraire pour que les gens ils viennent ici pour dormir, ils aillent consommer ailleurs.
Car ces aides de la mairie ne sont valables qu'un an, renouvelables, après tout risque de retomber. D'où l'appel de l'adjointe au commerce Sylvie Mousquet, qui ne veut pas voir fermer la nouvelle cordonnerie ou le magasin d'informatique.
Il y a de l'aide au niveau des mairies, mais après, on a besoin d'une aide de la part de l'État. Il est temps de faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de vivre de son commerce. Bien souvent, il faut que le conjoint soit salarié.
Et aille travailler hors de Mourenx, prennent la voiture et accessoirement fassent le plein. À Mourinx, Théo Manval, Europe 1.
Son acquittement avait créé la polémique et lancé le débat sur l'instauration d'un âge minimum de consentement à un acte sexuel. Un trentenaire a finalement été condamné en appel à 7 ans de prison pour le viol d'une fillette de 11 ans. En 2017, l'année dernière, donc, la cour d'assises de Seine-et-Marne avait estimé que les éléments constitutifs du viol n'étaient pas établis.
Europe 1, il est 6h04.
Ça vous est peut-être déjà arrivé, votre médecin vous prescrit un arrêt maladie et vous allez quand même travailler.
On apprend ce matin que 23% des arrêts maladie ne sont pas respectés. Étude menée auprès de 2000 personnes, un chiffre en hausse de 4 points par rapport à 2016. Ce sont les cadres et les dirigeants d'entreprises qui renoncent le plus à rester chez eux. Écoutez Anne-Sophie Godon, directrice innovation de Malakoff Médéric, qui publie cette étude ce matin.
Il y en a la moitié qui, en discutant avec le médecin, finalement, déclare ne pas vouloir prendre cet arrêt maladie. Et puis, il y a l'autre moitié qui rentre chez soi avec un arrêt maladie qui, finalement, décide de ne pas le prendre. Alors, qui sont ces salariés? On retrouve de manière plus importante des cadres, des dirigeants. Donc là, c'est des raisons autour finalement de la conscience professionnelle, mais aussi la peur de revenir au travail avec plus de travail encore qu'en partant. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des salariés qui travaillent dans des secteurs d'activité particuliers, notamment le commerce et l'hôtellerie-restauration. Alors ça atteint jusqu'à 30%. Ils voient les conséquences pour l'équipe qui va devoir les remplacer, mais aussi pour l'entreprise. Et puis, des salariés qui ne sont pas couverts par une garantie prévoyance en cas d'arrêt maladie et donc pour lesquels la perte de salaire n'est pas possible financièrement.
Anne-Sophie Godon avec François Geffrier. Un navire de pêche espagnol coincé en mer Méditerranée depuis plusieurs jours. La raison, aucun pays n'accepte d'accueillir les 12 personnes sauvées des eaux la semaine dernière. 12 migrants originaires de Somalie, du Soudan, du Sénégal et d'Égypte. Le capitaine du navire assure qu'il ne dispose plus que d'une semaine de provisions et qu'une tempête approche.
Un géant du fast-food au salon du livre jeunesse de Montreuil, voilà qui ne plaît pas à tout le monde.
Oui, le salon s'ouvre aujourd'hui et pour la deuxième année, McDonald's y tiendra un stand pour promouvoir l'opération Un jouet ou un livre. Si vous achetez un menu pour enfants, vous avez le droit à une histoire. Une pétition a donc été lancée pour réclamer le départ de la chaîne de restauration rapide. Plus de 4000 personnes l'ont déjà signé, Victor Dolande.
Un stand de 26 mètres carrés qui divise le monde de la littérature jeunesse. Pour les auteurs de la pétition, le but de McDonald's est uniquement publicitaire. Claude Ponty, auteur jeunesse à succès, partage le même avis. Il a choisi d'annuler une conférence pour la sortie de son nouveau livre. La culture des plus jeunes ne passe pas par le malbouffeur, estime-t-il.
C'est pas parce qu'on donne un livre qu'on donne la lecture. C'est pas vrai. La lecture, c'est une expérience, c'est une fréquentation, c'est une discussion avec l'auteur. C'est pas juste donne un bouquin et voilà, et dans 3 jours, tu lis Montaigne. C'est se moquer du monde.
Les organisateurs rappellent que McDonald's a distribué 44 millions de livres en 3 ans aux enfants qui choisissent des menus Happy Meal. L'enjeu est de faire lire le plus d'enfants possible, explique aussi Vincent Monadet, président du Centre National du Livre.
Les restaurants McDonald's percent des familles que nous n'arrivons pas à percer et donnent des livres à des enfants qui n'en ont pas chez eux. Nous avons choisi un camp très clair de démocratisation culturelle.
McDonald's s'étonne de cette polémique. L'enseigne de restauration rapide se dit fière de contribuer à donner le goût de la lecture aux enfants et rappelle un chiffre, nos livres sont présents chez 70% des familles françaises.
Victor Dolande pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann, une journaliste irréprochable, doublée, il faut le dire, je crois qu'on peut le dire, d'une créature de rêve. Je n'en dirai pas plus, si ce n'est que Céline, que votre taille 36 fait tourner bien des têtes.
36, sans la TVA.
Oh, on y va ! Mais c'est dégueulasse !
Europe 1.
Hors contexte total.
Oui, c'est le principe de mes sons, Eva, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et après l'annonce hier par Emmanuel Macron d'une grande concertation populaire à venir sur la transition énergétique, Fabrice Dalméda s'interroge. À quand remonte ce principe de concertation populaire? Moi, perso, je pense aux états généraux de 1789. Ça n'avait pas été une franche réussite pour Louis XVI, on s'en souvient.
Ah, le cochon!
C'était notre petit message historique.
Europe 1, il est 6h08.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 6h09, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Un temps gris et beaucoup de pluie.
Oui, c'est vrai. Et ça pour la moitié nord. Ça va se calmer cet après-midi. Mais on aura encore un ciel bien couvert et des averses localement soutenues dans le nord-est. Nos pluies de ce matin vont se décaler dans le nord-est. Et une nouvelle perturbation va arriver sur la Bretagne. Là aussi, des pluies soutenues en début d'après-midi. Pour la moitié sud, c'est plus calme, sec, avec un soleil voilé toute la journée. Grand soleil pour la Corse. Le tout sous des températures assez douces, puisque la moyenne cet après-midi ira de 9 à 18 degrés du nord au sud. Il en fera 11 à Paris.
Paris. On a un petit peu de fraîcheur encore dans le nord-est, puisqu'on la moyenne sera là de 4 à 7 degrés.
Merci Céline. Et Varoc.
Oui, à l'occasion de l'ouverture du Salon du Livre Jeunesse à Montreuil, on a demandé à nos auditeurs quel était le livre qui avait marqué leur enfance. Et bien, beaucoup de réponses sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Laetitia qui nous dit oui, Le Club des 5, Les 4 filles du docteur Marchais. Beaucoup de oui, La Gomme Magique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
Je crois que Fabrice Dameda qui nous a rejoint dans le studio était très oui. Voilà. C'était Carole... oui, La Révolution. C'est là qu'il a forgé toute sa culture historique.
Carole nous dit évidemment Le Club
oui,
des 5.
Oui, prends la Bastille.
Le Château de ma mère de Marcel Pagnol et plus tard Victor Hugo. Et Bastien nous dit Le Grand Mode d'Alain Fournier. Merci pour tous vos messages et à plus tard.
Merci beaucoup Eva, merci à vous chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
On accueille Jérôme Lacroix, probablement le journaliste le plus polyvalent de cette maison, le Rémi Bricat du News. journal des sports, revue de presse, imitation de Gérard Holmes presque réussie. Jérôme sait tout faire et les rares fois où il se plante, il sait qu'il peut compter sur notre bienveillance et notre soutien, qui sont vraiment l'ADN de Debout les copains.
De l'accompagnement scolaire, du microcrédit, reporter Arthur Mbaché dans un centre mosellan des Restos du Cœur.
Reporter, ça va plus vite.
Un reportage qui est en retard. Un reporter.
T'as dit reporter. Reporter, le de reportage.
Ah, GG, on essaye de pas bouffer les syllabes, Jonathan. On passe au journal des sports. Dans le JDS aujourd'hui, l'échéance capitale.
Imaginez l'échec, l'humiliation à Paris. Si d'aventure les footballeurs quittaient dès le premier tour la Ligue des Champions, la grande coupe d'Europe dont rêvent les patrons qataris. C'est bien cette ombre qui plane ce soir sur ce PSG-Liverpool au Parc des Princes. Alors, quelle est la donne ce soir, si Paris perd et que dans le même temps, dans l'autre match du groupe, Naples bat l'étoile rouge de Belgrade, ça en
c'est
sera
foutu.
Fini des espoirs parisiens pour la Ligue des Champions. Restera éventuellement la Ligue Europa. Le défenseur belge Thomas Meunier a bien conscience de tout cela.
Qu'est-ce qu'on va montrer? Bon, bah, déjà on est un peu au pied du mur. Le scénario est un peu différent. C'est pas comme si on avait un maximum de points et qu'on pouvait se permettre, je veux dire, une erreur. Il faut juste voir un visage du PSG motivé, offensif et prêt à tout.
On a senti la détermination de Thomas Meunier. PSG Liverpool.
Monsieur est taquin.
21h. Non, honnêtement. En plus, en interne, ils sont assez sereins. Avec Neymar qui plus est et Kylian Mbappé récemment blessé. A priori, aligné dès le coup d'envoi. Côté tribune, il y aura 2000 Anglais, supporters de Liverpool. Le reste du stade, évidemment, sera bien garni de supporters parisiens. Également aujourd'hui, 18h55, Atlético de Madrid-Monaco. Les Monégasques éliminés de la Ligue des Champions, mais ils peuvent mathématiquement encore accrocher la troisième place du groupe, synonyme de Ligue Europa.
Il y a donc un enjeu, je ne le savais pas. Pour les Lyonnais, tout se jouera dans deux semaines en Ukraine.
Et oui, le 12 décembre, il faudra au moins un match nul contre Donetsk pour fêter un retour en huitième de finale 7 ans après. Des Rodaniens, encore une fois, rejoints au tableau d'affichage en fin de partie hier soir. Pourtant, ils ont été très bons face aux redoutables Anglais de Manchester City, mais nul, de partout, doublé de l'attaquant Maxwell Cornet pour l'OL. Le résultat permet aux joueurs de City de se qualifier, tout comme leurs rivaux de United, mais aussi le Bayern Munich, la Juventus Turin, le Real Madrid et l'Ajax Amsterdam sont en huitième de finale.
Le handball féminin est veillé d'armes pour les Bleus.
Demain, coup d'envoi de l'Euro, leur Euro, il se tient en France. Les championnes du monde devant leur public, ça démarre face aux Russes, les championnes olympiques en titre. Le match se tient demain, donc 21h à Nancy. La joueuse Grace Zahadi sera doublement à domicile, quasiment, puisqu'elle joue à Metz, à une cinquantaine de kilomètres.
Très excitée à l'idée de commencer cette compétition à la maison, parce qu'il y a quand même un fort engouement autour de cet événement. Et puis forcément, je suis... Bon, en Lorraine, hein, pas très loin de Metz. C'est pas Metz, mais c'est Nancy. Donc ouais, je me sens encore plus à la maison qu'à la maison.
Des propos. Des propos
c'est vraiment un beau reportage, celui-là.
Par Patrick Muller.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Pour le meilleur et pour le pire, un pas de plus dans les traces de Michael
Schumacher. Vous jonglez
Schumacher.
Avec les mots.
Mais oui, c'est vrai. Un pas de plus dans les traces de Michael Schumacher pour Mick Schumacher, 19 ans, le fils du pilote allemand. Il va intégrer dès la saison prochaine le championnat de Formule 2, encore un peu plus près de la Formule 1. Après un passage par la Formule 3, il a été champion d'Europe.
Comme quoi, c'est dans les gènes.
Mais,
le
talent.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Merci Jérôme. Et à présent, Eva, nous abordons un domaine qui est vraiment notre dénominateur commun. Notre passion commune.
L'alcool.
Mais non, pas celle-là, celle sur laquelle on s'était mis d'accord en conférence de rédaction. Notre passion commune pour l'histoire, souvenez-vous. Aujourd'hui, dans cette historique, au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron d'une grande concertation populaire sur la transition énergétique, Fabrice Dalméda a cherché à quand remonter ce concept de concertation populaire. Et vous savez quoi? Comme il est super fort, il a trouvé.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça... On peut mourir tranquille.
C'est historique.
Le président. Bonjour Fabrice Almeida. Déjà, je vous ai dit bonjour tout à l'heure parce qu'on a déjà plaisanté un petit peu pendant la séquence précédente. Le président Macron a donc annoncé hier la mise en place d'une grande concertation de terrain. La discussion avec les Gilets jaunes semble compliquée à établir. C'est nouveau dans notre histoire, ces difficultés de concertation ?
Ben non, et pour vous montrer à quel point c'est ancien, revenons à Rome.
Ah,
la République venait à peine de naître. En 494, Rome était attaquée. Son économie était en berne. Les citoyens les moins fortunés, ceux que l'on appelle encore aujourd'hui la plèbe, pour vivre, avaient dû s'endetter. Incapables de rembourser, beaucoup risquaient l'esclavage. La plèbe donc ne supportait plus la domination des grands.
Alors comment ont-ils manifesté leur opposition ?
Alors convoqués à l'Assemblée...
Vous n'avez pas de gilets jaunes ?
Non. Mais ils ont trouvé un autre moyen. Convoqués à l'Assemblée militaire des citoyens et répartis dans leurs unités de combat, les hommes de la plèbe brisent les rangs et se retirent sur l'Aventin, un mont sacré hors de Rome. La rupture paraît irréparable. Mais le Sénat, l'Assemblée des riches, les patriciens, leur envoie un des siens pour négocier. Son nom, Agrippa Menenius Lanatus. Il avait commandé victorieusement l'armée romaine 9 ans plus tôt, assurant un bon butin à ses hommes. Et donc, fort de ce passé glorieux, Agrippa Lanatus tient à la plèbe un discours resté célèbre sur la complémentarité entre riches et pauvres. Les riches seraient comme un estomac oisif, mais qui digère les aliments nécessaires aux pauvres, les membres du corps qui en retour le nourrissent. Les uns ne peuvent pas vivre sans les autres.
Et son discours a été entendu puisque la plèbe a fini par rejoindre le Sénat.
Oui, et le petit peuple obtient la création des tribuns de la plèbe. Ce seront les représentants sacrés du peuple face au Sénat. Ils seront forcément plébéiens. Et bien sûr, les tribuns de la plèbe n'ont pas empêché d'autres crises. Mais ils ont apporté plus de justice. On aura donc compris que pour amorcer une concertation, il faut trouver les bons médiateurs comme Agrippa Menenius Lanatus en son temps. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui.
Merci beaucoup Fabrice d'Almeida. On disait tout à l'heure pour rire évidemment que votre livre de chevet c'était Oui Oui, mais on voit que c'était aussi Astérix. Merci beaucoup, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain comme de juste avant 6h15.
Europe 1, il est 6h16, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'informations dûment vérifiées, de blagues un peu moins dûment vérifiées, mais surtout de moments de grâce, comme lorsque par exemple Céline Dacosta, qui je le rappelle a toute sa tête et n'est pas sous tutelle,
oh là là,
aperçoit dans la vitre du studio une femme qui ressemble à s'y méprendre, à Eva Rock.
Voilà, bah je suis putain, il y a quelqu'un qui te ressemble, c'est ton reflet. Je suis putain, mais la meuf, là-bas, comme elle te ressemble. C'était toi. Oh la fatigue.
Alors évidemment, une personne qui ne comprend pas que le reflet dans la vitre en face d'elle correspond non pas au sosie de sa voisine, mais simplement au reflet de sa voisine, peut-elle comprendre la problématique complexe de la biodiversité ? Accrochez-vous Céline à 6h20 pour évoquer la COP14 sur la biodiversité. Le professeur Bruno David, président du Muséum National d'Histoire Naturelle, sera avec nous. Mais d'abord, un sas de décompression pour nos neurones, Céline.
Oui. Un moment à savourer sans retenue, c'est le moment de découvrir la fausse pub qui a été diffusée hier sur Europe 1.
Oui, alors il y en a des vraies, il y en a aussi des fausses. Comme ça serait trop long de repasser toutes les vraies d'hier, je vous propose de réécouter simplement la fausse.
Qui sont-ils ?
Vous les avez forcément vus.
À chaque fois c'est pareil, je les vois, ils ont déjà le manteau, la valise et ils avancent. Le train va arriver, ils avancent.
Oui, ils avancent, mais vers où et pourquoi ?
Ils traversent les wagons un par un, ils ont l'air tellement résolus.
Décidés, mais à quoi ?
Ça fait un peu peur, mais parfois ils bousculent.
Ces personnes étranges, prêtes à faire tous les wagons pour descendre plus tôt, plus vite, le plus près possible de la sortie de la gare, nous les avons retrouvés.
Ce soir à 20h50, gare Saint-Lazare, Bernard de la Bernardière sera en direct avec la secte des gens pressés d'arriver plus vite que le train.
Alors ça c'est tellement
c'est
juste,
tellement vrai.
C'est tellement bien vu Bernard de la Bernardière, c'est tout à fait ça. Une fausse pub peut passer à tout moment sur Europe 1 les amis, dès que c'est le cas on peut jouer. Quelle est la marche à suivre Céline ?
C'est simple, pour gagner le dernier iPhone XS, vous attendez la diffusion sur Europe 1 de la fausse pub du jour et là, vous envoyez l'air de rien pub PUB par SMS au 739 21, 75 centimes plus le coût du SMS ou alors vous appelez le 39 21, ça marche aussi, 50 centimes par minute. Bonne chance à tous. Il est 6h21, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Un appel au blocage total de l'île de la Réunion a été lancé pour aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est attendue sur place pour aller à la rencontre des Gilets jaunes. Donald Trump menace de couper les subventions à General Motors. L'entreprise a annoncé la suppression de milliers d'emplois et la fermeture d'usines dans l'Ohio, le Michigan et le Maryland. Enfin, en Ligue des Champions, Lyon devra aller chercher sa qualification à Donetsk le 12 décembre prochain. Hier, les Lyonnais ont terminé sur un nul face à Manchester City, 2-2. À suivre ce soir, PSG Liverpool à 21h au Parc des Princes.
Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 28 novembre 2018, déjà que le temps passe vite en votre compagnie Eva Rock. Et l'actualité aujourd'hui, c'est aussi la COP14 sur la biodiversité qui refermera ses portes demain en Égypte. Les COP, ça n'existe pas donc que pour le climat. Jusqu'à demain, 196 pays sont réunis à Sharm el-Cheikh pour une COP sur la biodiversité. L'objectif est de décider des grands objectifs mondiaux pour préserver les espèces naturelles et sauvegarder les espèces, et il y a urgence. Bonjour professeur Bruno David.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Pourquoi déjà les États ont-ils intérêt à maintenir la richesse de la biodiversité? Qu'est-ce que ça leur rapporte?
Oh, tout simplement parce que les écosystèmes nous rendent beaucoup de services sans qu'on s'en rende compte nécessairement. Si on respire de l'oxygène en quantité convenable pour notre survie, c'est grâce à la biodiversité. S'il pleut parfois, c'est grâce à la biodiversité, même si c'est beaucoup moins connu, celle de l'océan par exemple. Et puis bien sûr des ressources alimentaires, des ressources simplement aussi pour la beauté des paysages. Par
ça peut paraître évident, mais cette interconnexion, il faut la rappeler, parce que parfois on a l'impression, je dis la biodiversité, bon, c'est très bien qu'il y ait plein d'animaux, très bien, mais en fait on est tous reliés par une sorte de grande chaîne qui fait que si jamais il y a trop d'espèces qui disparaissent, ben peut-être qu'à terme l'homme aussi.
La biodiversité en fait, en un mot, c'est le tissu vivant de la planète. Donc on voit des fils entremêlés, les fils entremêlés ce sont les espèces. Et si on fait trop d'accrocs dans ce tissu, eh bien finalement le tissu va se déliter complètement et il ne rendra plus le même service qu'avant.
Un gilet jaune qui visite votre musée qui vous dit « moi, préserver la biodiversité, je suis pour, mais la priorité, c'est quand même de pouvoir boucler mes fins de mois. Alors, il faut arrêter de taxer le diesel. » Vous répondez quoi? Évidemment, c'est un raccourci complètement caricatural, mais ça souligne le gouffre abyssal qu'il peut y avoir entre les problèmes concrets des gens à court terme et les problèmes de long terme qui se posent à l'humanité.
J'aurais tendance à lui répondre que c'est le même problème. J'ai été frappé l'autre jour, j'ai entendu une dame gilet jaune qui parlait en disant « moi, ma priorité, ce sont mes petits-enfants, ce ne sont pas les ours blancs. » En fait, c'est le même problème.
Ah oui, oui, ça se rejoint.
C'est le même problème. Parce que si on a des changements qui sont absolument drastiques, il y aura plus d'ours blancs, et ça ne sera pas forcément une catastrophe pour la planète, je suis désolé de le dire pour les défenseurs des ours, mais ça sera vraiment une catastrophe pour ces petits-enfants.
Et pour la stabilité de notre économie aussi, non?
Pour la stabilité de l'économie, pour la stabilité des sociétés tout court. Imaginez un instant que l'Afrique se désertifie, ça fait des centaines de millions de personnes qui vont migrer, par exemple.
Alors justement, cette conférence qui a lieu à Sharm el-Cheikh, quel type d'engagement les pays peuvent réussir à prendre dans ce genre de sommet international? Est-ce que ça brasse beaucoup de vent ou est-ce qu'on arrive à des résultats concrets?
Alors en fait, cette COP de Sharm el-Cheikh, elle est faite pour préparer une autre qui sera plus importante, qui se tiendra en 2020, où les vraies décisions seront prises. C'est d'accord. Un petit peu comme la COP 21 sur le climat qui s'est tenue à Paris, où il y a eu de grandes décisions qui ont été prises, mais tout ça, ça se prépare longtemps en avance. Donc on a 2 ans, les pays ont 2 ans pour se préparer, et Sharm el-Cheikh est là pour poser les bases d'un certain nombre de questions qui seront ensuite approfondies en 2020.
Et justement, est-ce que c'est aussi compliqué sur la biodiversité que ça l'a été sur le climat, pour se mettre d'accord?
C'est beaucoup plus compliqué sur la biodiversité.
C'est plus compliqué encore? Mais alors
c'est
vous
beaucoup
êtes pessimiste.
Plus compliqué. Non, je ne suis pas pessimiste, non. Mais c'est plus compliqué simplement parce que la biodiversité, c'est plus compliqué que le climat. Il y a beaucoup de choses qui sont locales. On ne peut pas avoir, comme pour le climat, on a une manette, on a un robinet, si vous voulez, pour le climat, qui est le robinet du CO2. Alors, on peut ouvrir le robinet, fermer le robinet, et on sait à peu près ce qui va se passer. Pour la biodiversité, c'est plus complexe, parce qu'on a des millions d'espèces, et que ça représente des millions de cas différents. Donc, on a beaucoup de robinets.
Est-ce qu'il y a des animaux que la génération de nos enfants ou petits-enfants ne pourra plus observer?
Certainement, il y a des espèces qui disparaissent, pas encore en proportion trop gigantesque. Il y a des déclins d'abondance, c'est-à-dire que les effectifs des espèces sont moins importants, et ça c'est très inquiétant aussi. Mais il y aura sans doute plus d'éléphants, il y aura sans doute plus de tigres, il y aura sans doute
plus d'éléphants. À quelle échéance vous dites?
J'ai pas dit d'échéance,
non,
j'ai pas donné d'échéance.
Si on dit nos petits-enfants, il y a une possibilité qu'il y ait plus d'éléphants.
C'est-à-dire que si on poursuit la courbe de déclin des éléphants aujourd'hui, je pense que d'ici moins de 100 ans, les éléphants seront dans les zoos.
Vous n'avez pas l'air trop catastrophiste, pourtant certains parlent de 6e extinction de masse des espèces. Est-ce que ça, elle est réelle, cette extinction?
Alors je me suis peut-être mal fait comprendre, mais non, je suis très, très pessimiste quand même. Cette extinction, elle est totalement
réelle.
J'ai travaillé dessus d'ailleurs, et c'est vraiment une extinction en cours. On est vraiment sur la même trajectoire que les grandes extinctions des temps géologiques, donc on est vraiment sur la même trajectoire. Simplement, on est encore un petit peu loin, on est au tout début de cette trajectoire, mais par contre, on s'y engage à une vitesse jamais atteinte dans le passé.
Oui, parce qu'un récent rapport du WWF indique que les populations de vertébrés ont chuté de 60% depuis 45 ans. J'y connais pas grand-chose, mais enfin, ça paraît complètement vertigineux. Comment on l'explique?
Ce sont des déclins des effectifs, ce n'est pas des disparitions d'espèces encore, mais on a des diminutions d'abondance, c'est-à-dire de génération en génération, il y a de moins en moins d'individus. Et c'est ça qu'on est en train d'observer. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est exactement comme cela qu'ont fonctionné les grandes crises du passé, dans le passé géologique de la Terre.
Merci beaucoup, professeur Bruno David, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1.
Europe 1, il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et les pluies aussi par l'ouest, par la fameuse pointe bretonne me semble-t-il. Europe 1.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Avant de retrouver le journal de 6h30, voici la météo de Céline Dacosta. Une journée grise et pluvieuse pour la moitié nord.
Oui, des averses localement soutenues ce matin qu'on retrouve en ce moment entre la région parisienne, les Hauts-de-France et la Bourgogne. C'est plus se décale vers l'est. On va les retrouver sur le nord-est dans l'après-midi. Ça se calmera pour le reste de la moitié nord avec encore beaucoup de nuages et de faibles ondées. On aura en revanche des averses un peu plus soutenues sur la Bretagne en fin de journée, enfin même en début d'après-midi, même avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Pour la moitié sud, c'est assez simple. Du soleil, il sera voilé toute la journée. Grand soleil pour la Corse. Encore un petit peu de mistral également près de la Méditerranée, beaucoup moins fort qu'hier.
Un mot des températures assez douces cet après-midi.
Oui, 10 degrés à Lille, 11 à Paris, 13 à Nantes, 15 à Brest. Ça, c'est pour la moitié nord. Il en fera 12 à Cognac, 14 à Bordeaux et Toulouse, 15 à Montpellier, 16 à Bastia et même 18 à Biarritz. Des températures un petit peu au-dessus de la normale de saison. Et puis, ça va rester frais dans le nord-est, comme hier, avec 4 à 7 degrés. Ce matin, comptez 0 à 2 degrés dans le nord-est, là où les températures sont les plus fraîches. 3 à 7 degrés pour les autres et déjà 10 à 13 degrés sur la façade ouest.
Merci Céline.
Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h pour tout savoir de l'actu sans jamais, au grand jamais, oublier d'en rire. Et avec ma consoeur Eva Rock, je vais vous dire, ça risque pas.
Au total, la fracture.
Non mais arrêtez.
118 milliards par an après la destruction des côtes. Des côtes de bœuf.
À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques vous livrent leur vision de l'actu. Au programme ce matin, concrètement, à quoi va ressembler la grande concertation populaire annoncée par Emmanuel Macron? Que regarder à la télé ce soir? Et enfin, cette question, comment les Français perçoivent-ils leur supérieur hiérarchique? Mon conseil, Eva Céline, ne dites rien, comme dirait David Doucan.
Je vous rappelle que nous avons toujours 9,1% de chômage dans notre pays.
Voilà. Moi, perso, j'adore mon supérieur hiérarchique, mais je l'adore. Je le...
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. h 7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Peur sur la ville à Orléans, une série d'agressions sexuelles sur le campus universitaire. 5 étudiantes victimes en une semaine. Une enquête a été ouverte. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Le dialogue de sourds entre Emmanuel Macron et les Gilets jaunes. Les annonces d'hier n'auront pas suffi à calmer la colère. Un nouvel appel à manifester samedi prochain a été lancé. Les clubs français en Ligue des Champions, match nul hier soir pour Lyon. L'OL a encore une chance de se qualifier. Et rencontre à haut risque ce soir pour le Paris Saint-Germain face à Liverpool.
Europe 1.
5 victimes en une semaine, que se passe-t-il? Que se passe-t-il sur le campus universitaire d'Orléans? 5 étudiantes ont été prises pour cible par un homme. Des agressions sexuelles qui installent un climat de peur dans la ville. Une enquête est ouverte. L'homme est activement recherché. Reportage sur place, signé Rémi Botsaron.
C'est une petite rue bordée par des arbres et qui longe les tours d'une résidence universitaire. C'est ici que ces 5 jeunes filles ont été agressées. À chaque fois, le scénario est le même. L'homme les suit, le visage caché par une capuche, puis il se jette sur elles, les touche à travers leurs vêtements et s'enfuit quand elles commencent à crier. Cette menace effraie désormais toutes les étudiantes, comme Samira, qui en début de soirée rentre chez elle d'un pas pressé.
Là, on a peur. On essaye de rentrer plus tôt, de faire des courses le matin si on a le temps, parce que quand on termine à 19h, c'est un peu dangereux. Quand même. Ouais. Surtout de l'université jusqu'à la résidence chez Châtelignier, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien.
Le président de l'université assure tout de même que les patrouilles de police ont été renforcées, mais depuis qu'un appel à la vigilance a été lancé lundi sur les réseaux sociaux par l'administration, certaines comme Sarah osent à peine sortir de chez elles.
J'essayais d'aller au cours, après en rentrant je ne sors plus. Je ne peux pas aller par exemple pour faire des courses maintenant ou pour des rendez-vous. J'ai peur qu'il arrive quelque chose.
L'université cherche désormais à savoir en interne si d'autres étudiantes ont subi une agression similaire.
Rémi Bostaron pour Europe 1. Après les annonces d'Emmanuel Macron hier matin, l'un des porte-parole des Gilets jaunes appelle à manifester à nouveau samedi. Déclaration lancée après la rencontre avec le ministre de l'écologie François de Rugy. Le discours du président n'aura donc pas suffi à calmer la colère des protestataires. Le chef de l'État a pourtant promis un dispositif pour limiter l'impact des taxes sur le carburant et une grande concertation. Dans son discours, il a aussi dessiné la stratégie énergétique de la France pour les années à venir. Il veut mettre le paquet notamment sur le solaire et l'éolien. Emmanuel Macron promet 71 milliards d'euros de soutien aux renouvelables. Alors comment faire pour développer ces énergies? Élément de réponse avec Laure d'Autriche.
Multiplié par 3 l'éolien terrestre, c'est la question la plus sensible. Cela ne veut pas dire tripler le nombre d'éoliennes, mais tripler la production d'électricité. Aujourd'hui, il y a 8000 éoliennes sur le territoire. En 2028, il faudrait qu'il y en ait 13000 environ. Mais pour y arriver, ce qui pose problème, c'est l'implantation de ces éoliennes qui est systématiquement contestée par des associations locales, arguant la plupart du temps que cela dénature le paysage. Résultat, il faut 7 ans de procédure pour faire sortir de terre un projet, selon Pauline Lebertre de l'association France Énergie Éolienne.
Les recours aujourd'hui, c'est 3 niveaux de juridiction. Le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et puis après le Conseil d'État. En moyenne, c'est à peu près 2 ans par échelon de juridiction. Donc c'est très pesant sur le développement des projets.
Quant à l'énergie solaire, Emmanuel Macron promet une multiplication par 5 de cette énergie d'ici 2028. Ce sera plus facile à installer que les éoliennes, disent les spécialistes, car le prix du solaire est de plus en plus bas.
Laure d'Autriche, spécialiste environnement d'Europe 1. Jean-Marie Le Pen sera une nouvelle fois jugé. Il est poursuivi pour ses propos visant les homosexuels et notamment le policier qui avait été tué dans l'attentat sur les Champs-Élysées en 2017. Le parquet avait requis 8000 euros d'amende. Le tribunal correctionnel de Paris va rendre sa décision aujourd'hui.
À suivre dans ce journal, on reparle écologie. Si on veut que les gens prennent moins leur voiture, il est impératif d'avoir des transports en commun performants. Une expérience innovante est à l'œuvre en région parisienne. Vous allez voir, ça concerne votre horaire d'arrivée au travail. À tout de suite.
Europe 1, il est 6h34.
Tout à l'heure, vers 7h25, retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Et dès maintenant, découvrez d'autres inventions et innovations sur edf.fr.
Au fait, Antoine, c'est bon, j'ai mon rendez-vous. Ben, c'était facile, en fait.
C'est pas vrai, c'est bien. Avec Sophie?
Non, non, non.
Ah, avec Marie, alors?
Non, non plus.
Attends, pas Céline, quand même.
Mais non, chez Ford Service, et j'ai même eu 30 euros de remise.
Mais comment t'as fait?
Obtenir un rendez-vous en ligne n'a jamais été aussi facile chez Ford Service. Pour tous les clients Ford, profitez de 30 euros de remise exceptionnelle sur votre révision en réservant sur Ford.fr avec le code R30.
Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2018, voire conditions sur Ford.fr.
Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de préparer les fêtes avec les explorateurs de Noël Disney. En magasin et sur kiabi.com, partez en quête de cadeaux Disney. Tentez de gagner un séjour à Los Angeles et plein d'autres cadeaux pour prolonger la magie des fêtes en famille. Les explorateurs de Noël Disney chez Kiabi, du 26 novembre au 31 décembre. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Modalités et conditions de jeu, magasin et kiabi.com.
Il est 6h35, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. Et si les salariés avaient le droit de ne pas tous arriver en même temps au travail?
Oui, en voilà une idée dont l'objectif est de lutter contre la saturation des transports en commun. La région Île-de-France, la RATP, la SNCF et le quartier d'affaires de la Défense signent aujourd'hui une charte du lissage des horaires. L'idée, c'est de permettre aux salariés d'arriver au travail avant ou après les heures de pointe. Une quinzaine d'entreprises sont déjà en train de mettre en place cette expérimentation. Aurélien Fleureau.
Mathias est responsable de projet chez Allianz et comme 85% de ses collègues, il prend les transports en commun, une heure le matin, une heure le soir. Entre wagons bondés, promiscuité et problèmes techniques, la perspective de pouvoir adapter ses horaires est forcément une bonne nouvelle.
Le lissage des horaires, pour moi, c'est avant tout la capacité d'arriver ou plus tôt le matin ou plus tard. Pour moi, ce sera plus tôt puisque mon fils commençant l'école plus tôt le matin, je pourrais moi aussi partir un peu plus tôt. C'est une vraie chance, une vraie opportunité.
L'expérimentation débutera en janvier prochain. Elle viendra en complément de ce qui existe déjà chez Allianz, c'est-à-dire pas de réunion trop tôt le matin ni trop tard le soir, et le développement du télétravail, ce sera complémentaire et nécessaire selon Martine Baruc en charge du dispositif.
Ça nous semblait impératif de s'inscrire dans le sens où nous avons 5500 collaborateurs à la Défense et c'est vraiment ce qui est ressorti de la part des collaborateurs, c'est souvent la problématique des heures de pointe à la Défense, la fatigue, le stress.
Total, Saint-Gobain, EDF ou la Société Générale font partie des entreprises volontaires. Objectif réduire de 5 à 10% le nombre de voyageurs pendant les pics de fréquentation, suffisant pour éviter la saturation.
Les précisions d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Le marathon de Theresa May pour faire adopter l'accord sur le Brexit. La première ministre britannique sera aujourd'hui en déplacement en Écosse, puis devant le Parlement à Londres. Elle doit convaincre les élus avant le 11 décembre prochain. À ce stade, une large majorité d'entre eux refusent de ratifier. Et puis c'est l'escalade entre l'Ukraine et la Russie après la capture de 3 navires en mer Noire par l'armée russe. Le président ukrainien Petro Poroshenko a évoqué, je cite, « la menace d'une guerre totale avec la Russie ». Donald Trump a quant à lui menacé d'annuler la rencontre prévue en fin de semaine au G20 avec Vladimir Poutine.
plus léger. Parlons maintenant, David, des clubs français en Ligue des Champions.
Oui, le Paris Saint-Germain joue très gros ce soir face à Liverpool. Et hier, l'Olympique Lyonnais a concédé le match nul de partout face à Manchester City. Jérôme Lacroix.
Oui, pourtant, ils ont été bons face à l'une des meilleures équipes d'Europe. Mais encore une fois, relâchement dans les ultimes instants. Rejoint à la 83e minute. Mais la qualification en 8e de finale reste possible. Dans deux semaines, le 12 décembre, ce sera une finale en Ukraine contre Donetsk. Un nul suffira aux Lyonnais. Mais s'ils perdent, eh bien, ce sont les Ukrainiens qui se qualifieront. Eux aussi auront donc un enjeu, déplacement périlleux. Mais l'espoir côté supporters de retrouver les 8e de finale 7 ans après.
Ça va être dur en Ukraine étant donné le froid et puis le climat en Ukraine. Mais je pense qu'on peut le faire, c'est possible.
On va tout donner. Il y aura les supporters, ils vont faire le déplacement. On a vu des guerriers ce soir, attention. Mais c'était pas assez, il manquait un petit truc. Et on va aller le chercher, on va se qualifier.
Et puis le Paris Saint-Germain, ce soir, Jérôme, quels sont les enjeux?
Oui, PSG-Liverpool, les Parisiens pourraient être éliminés dès le premier tour de la Ligue des Champions. Leur Graal, tant c'est facile pour un championnat de France. Si ce soir, ils perdent contre Liverpool et que dans le même temps, dans l'autre match du groupe, Naples bat l'étoile rouge de Belgrade, eh bien ce sera fini. Et même s'ils s'imposent ce soir, il faudra aller chercher un résultat à Belgrade dans deux semaines pour être sûr de se qualifier en
Je sens dans le regard de David qu'il n'a pas tout compris
si,
à vos explications.
Tout compris, c'est limpide. Vous avez vu, Jérôme, que Jean-Michel Aulas n'a pas envie d'envoyer son équipe en Ukraine eu égard aux tensions qui montent face à la Russie.
Ah oui.
Je le précise. Ça l'inquiète.
C'est une précision intéressante.
Ce match, on ne sait pas encore dans quelle ville il va se jouer.
Voilà, c'est ça.
C'était le journal de David Doucan, ce journaliste doté par Damnet d'une voix digne des plus grands crooners et qui du coup tient à ce que la sono soit à la hauteur de son magistral organe. Oui, oui. Ça serait quand même le minimum. Or, est-ce une question de réglage? Mais depuis notre arrivée dans nos nouveaux studios rue des Cévennes, quelque chose le tracasse.
Ça va pas là, faut s'habituer là. Le nouveau son, donc du coup sans doute que j'en rajoute. Je me sens moins sexy.
Mais non David. Non mais non, l'autre jour rien qu'en disant Lionel Gougelot, Céline a failli défaillir. Allez, on passe à la météo.
Vous pouvez me refaire d'ailleurs.
Lionel Gougelot.
Même moi j'ai failli défaillir. Céline, quel temps sur la France aujourd'hui?
Ciel couvert, pluvieux encore ce matin et ça pour toute la moitié nord. Ça va se calmer cet après-midi, on aura encore un ciel bien couvert et des averses localement soutenues dans le nord-est et sur la Bretagne. Pour la moitié sud, c'est plus calme, sec avec un soleil voilé. Le tout sous des températures assez douces cet après-midi puisque la moyenne ira de 9 à 18 degrés. On est au-dessus des normales de saison. Il reste un petit peu de fraîcheur tout de même dans le nord-est pour cet après-midi. Ne comptez pas plus de 7 degrés sur ce secteur.
Merci Céline. Eva Rock.
Et oui, c'est l'ouverture du Salon du Livre Jeunesse à Montreuil aujourd'hui. Alors on a demandé à nos auditeurs sur Twitter quel était le livre qui avait marqué leur enfance. Et bien Christine nous répond par exemple Oliver Twist, La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets, Les contes du chat perché ou Les contes de Perrault. Il y a Carlisa qui nous a dit Le petit prince qu'elle a lu à 7-8 ans. La collection des Martines évidemment, Les malheurs de Sophie, de la comtesse du Ségur, toute la bibliothèque rose et verte. Je vous vois, j'ai l'impression que vous repartez en enfance là Mathieu.
Ah bah
quand
oui. Vous écoutez comme ça.
Ces mots, c'est vrai.
Et j'ai très envie d'aller à ce Salon du Livre de Montreuil que j'adore.
Et oui, et John nous a répondu La sorcière de la rue Mouffetard que je vous recommande, qui est un super livre jeunesse. Merci pour tous vos messages et à demain pour une autre question.
Merci beaucoup Eva.
Il est 6h41, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe d'une main et de l'autre vous chatouille. À suivre, les trois fantastiques. Au programme, trois questions. Que regarde-t-on à la télé ce soir? À quoi va ressembler concrètement la concertation populaire annoncée hier par Emmanuel Macron? Et enfin, comment les Français perçoivent-ils leur supérieur hiérarchique? Les Français, je ne sais pas, mais nous, en tout cas, on le trouve comment, Laurent Guimier, le patron d'Europe 1?
Super, génial.
Oh, ouais, oh bah oui, nous, on adore, hein, vraiment.
Innovation paye et RH.
Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Les mots d'Emmanuel Macron n'auront pas suffi. Deux porte-parole des Gilets jaunes ont été reçus hier soir par le ministre de l'écologie François de Rugy. À la sortie, l'un d'eux a immédiatement appelé à manifester à nouveau samedi prochain. Peur sur la ville d'Orléans. En seulement une semaine, 5 étudiantes ont été victimes d'agressions sexuelles. Une enquête a été ouverte. L'agresseur est activement recherché. Enfin, du football, Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain joue très gros ce soir face à Liverpool. Quant à l'Olympique Lyonnais, il a arraché hier le match nul 2-2. Face à Manchester City.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
6h43, et regardez Céline, vous voyez ce que je vois dans la vitre du studio? Regardez, c'est fou, c'est les sosies des trois fantastiques. Le sosie d'Axel de Tarlé, le sosie de Mickaël Darmon et la sosie des baroques pour la télé. À moins, évidemment, on ne peut pas écarter l'hypothèse que ce ne soit que les reflets des vrais fantastiques. Oui, messieurs, hier, Céline Dacosta a vécu un grand moment de solitude en pensant apercevoir le sosie d'Eva dans la vitre avant de comprendre où était l'astuce.
Voilà, là-bas, putain, il y a quelqu'un qui te ressemble, c'est ton reflet. Putain, mais la meuf, là-bas, comme elle te ressemble. C'était toi. Oh, la fatigue. C'est vous. J'ai vite compris que c'était elle, mais quand même, j'ai quand même eu une espèce de 3 secondes de doute.
Elle a vite compris. C'est rassurant qu'elle ait vite compris. Pendant que Céline essaye de mettre de l'ordre dans sa tête, Mickaël Darmon, on va commencer par la politique plus sérieusement. Comme nous l'avions évoqué, Emmanuel Macron a changé de méthode, mais pas de politique, en annonçant une grande concertation de transition écologique et sociale. Comment ça va s'organiser tout ça?
Alors l'idée tourne depuis quelques jours déjà à l'Élysée. Les équipes d'Emmanuel Macron ont testé les régions pour savoir si elles accepteraient d'organiser et de porter la concertation sur la transition écologique. Alors on le sait, les régions ont toujours été critiques, mais depuis le remaniement, l'heure est à la réconciliation et aux gestes de réconciliation. Alors je peux vous dire qu'au sein des régions de France, on n'a pas fermé la porte et cette démarche s'inscrit dans le changement de méthode du gouvernement, vous l'avez dit, amorcé par l'exécutif. Mais il faudra aussi que les Gilets jaunes y participent.
Et pour autant, est-ce que les dirigeants de la majorité comprennent ce mouvement des Gilets jaunes?
Alors là, je vous raconte cette scène étonnante. Nous sommes en réunion du groupe La République En Marche à l'Assemblée hier matin. Gilles Legendre, le chef des députés, prend la parole et dit « On vit notre épreuve du feu, mais soyons fiers de ce qu'on a fait depuis 18 mois. » Et Richard Ferrand rajoute « Entre la République nationale, le Rassemblement national pardon, et la France insoumise, ça fait 40% des voix, donc les oppositions sont normales. » Et là, cette approche électoraliste même provoque un tollé parmi les députés qui se lèvent. Les Gilets jaunes sont des classes moyennes inférieures juste avant les revenus sociaux. Ce ne sont pas des extrémistes. Les députés des zones en difficulté, eux, sont stupéfaits et inquiets de voir cette déconnexion entre le sommet donc, et les Gilets jaunes et la manière dont les Gilets jaunes se revendiquent de cette classe moyenne sans moyens. Bref, ils le disent en grinçant des dents. Le chef de l'État l'a dit, on devrait un peu les envoyer sur le terrain pour avoir donc quelques réalités. Et le travail donc, pour combler le fossé ne fait que commencer. Et il va falloir faire vite parce que la crise politique profonde menace.
Merci beaucoup Mickaël Darmon pour cette analyse. À vos côtés, Axel de Tarlet, notre dauphin d'or de l'économie, avec une enquête. Une enquête, Axel, comment les salariés perçoivent-ils leur supérieur hiérarchique? Une enquête révélatrice des relations sociales en France, révélatrice aussi de l'ambiance qui règne dans les entreprises.
Oui, alors c'est une enquête réalisée pour le compte du cabinet MPI Exécutif. Donc l'institut de sondage YouGov a posé la même question à des Français, à des Anglais, à des Allemands. Cette question, c'est: quelle perception avez-vous de votre supérieur hiérarchique? Donc concrètement, ici, mon supérieur hiérarchique, ce serait vous, Mathieu.
Dans nous sommes sur un pied d'égalité.
La réponse des Français dit « mon boss joue perso ». Voilà, alors ça c'est une spécificité française.
Est-ce que vous pensez
en
aussi
France, on dit que son patron, enfin son N+1 comme on dit, prend ses décisions tout seul dans son coin sans consulter personne. Plus grave, en France, on remarque qu'il prend ses décisions dans son intérêt propre. Vous voyez, en France, 47% des salariés disent que son manager a pour principale motivation son intérêt personnel, ce qui est beaucoup moins le cas en Allemagne ou au Royaume-Uni. Donc vous voyez, cela témoigne, ça, en France, d'un exercice solitaire du pouvoir, alors qu'ailleurs, en Allemagne, au Royaume-Uni, eh bien, les décisions seront prises de façon plus collective. Mais le pire dans cette histoire, c'est que les Français, les salariés français, ont parfaitement intégré et accepté cet
état de choses. Il n'y a pas d'impact sur la motivation des salariés?
Non, on trouve que c'est très bien que son patron prenne ses décisions tout seul dans son coin sans consulter personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'en France, quand on demande aux salariés, c'est quoi pour vous un bon patron?
C'est quelqu'un qui prend les décisions.
Non, c'est un sachant, c'est un expert de la chose. Et donc c'est normal qu'il décide tout seul dans son coin, parce qu'il connaît parfaitement la chose. Alors que si vous demandez à des Anglais ou à des Allemands, c'est quoi un bon patron? Il va vous dire, c'est un leader, c'est un patron charismatique qui va emmener toutes ses troupes en les prenant derrière elle. Et donc, vous voyez, ces deux approches différentes, et en France, on a une vision solitaire du pouvoir, peut expliquer d'ailleurs parfois qu'il y ait de l'incompréhension en entreprise et donc de la conflictualité. Vous voyez, ce sont deux façons de voir les choses très différentes, mais très éclairantes, je trouve.
Effectivement, plus vertical que horizontal.
Plus jupitérienne.
Plus jupitérienne, évidemment.
Et en cas de problème, ça donne les Gilets jaunes.
Et voilà.
Ou la 5e République.
Eva Rock, mon inférieur hiérarchique.
Oui.
Qu'est-ce que vous nous proposez? La supérieure hiérarchique, vous êtes rédactrice en chef de cette émission.
Oui, enfin,
je suis sous
votre
vos ordres.
N-1. Je vous conseille de regarder Investigation. C'est le magazine d'information de France O, la chaîne des Outre-mer, à 20h55. Il propose un reportage réalisé à la frontière franco-italienne avec des bénévoles d'associations qui sont chargés d'aider les migrants. Des migrants qui passent, vous le savez, par les montagnes pour franchir la frontière à leur risque et péril, comme cette femme venue du Niger qui raconte une infime partie de son périple.
Je me souviens qu'il y avait deux hommes avec nous. Ils m'ont aidé pendant l'ascension car j'étais en train d'accoucher. Ils m'ont aidé à grimper la montagne afin d'arriver tout en haut. C'était juste avant de croiser M. Benoît, à qui nous avons demandé de l'aide.
Alors Benoît, monsieur Benoît, c'est Benoît Ducos. C'est un homme qui a choisi de se mettre dans l'illégalité dans un but humaniste. Il est ébéniste de métier et il fait en sorte en fait de se dégager un maximum de temps au profit de son engagement, de son militantisme, ce qui lui a valu d'ailleurs une interpellation, un procès dont le jugement a été mis en délibéré au 13 décembre. Il encourt de 6 à 12 mois de prison car son acte dans le droit français est considéré comme un acte criminel. Lui, comme les autres bénévoles français et italiens que vous allez pouvoir découvrir dans ce reportage, ne veut rien lâcher et continue cette mission qu'il considère comme un geste humaniste, empêchant la mort de résonner dans les montagnes, comme il dit. Et des frontières, Benoît Ducos dit ceci.
Les vraies frontières, elles ne sont pas là où on les met, en fait. Elles ne sont pas sur les cartes, elles ne sont pas sur les atlas. Elles sont plus dans les têtes des gens, dans les têtes des dirigeants, les têtes de ceux qui font les lois.
Alors, quelle que soit votre opinion sur cette question, ce reportage mérite l'attention. C'est dans Investigation sur François à 20h55. Et si vous avez envie de rire, évidemment, vous allez sur TMC parce qu'il y a Burger Quiz. Et Burger Quiz qui sera présenté ce soir
par Jérôme Commandeur
et par Gérard Darmon. Ne loupez pas ça.
Il faudrait zapper
c'est
d'un
à 21h, exactement.
Idéal. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci, Mickaël Darmon, Axel de Tarlé. Les trois fantastiques seront de retour demain avant 7h moins le quart. Eva, un dernier mot
Je vais pas trouver le mot, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave, tant pis. Europe
1. Il est 6h50, Mathieu Noël.
Les portes de Debout les copains s'apprêtent à se refermer, ce qui est à peu près aussi triste que lorsque les portes du pénitencier se referment en allemand. Eh oui, ça existe. Mais séchez vos larmes, car le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nico Saliagas, gardez espoir, vive le journalisme, vive Europe 1.
Vive la France.
Attention, ceci est un véritable message d'Europe 1.
De fausses pubs se cachent sur Europe 1. Soyez attentifs à tout moment si vous entendez une fausse publicité. Tentez votre chance en envoyant pub par SMS au 739 21 75 centimes plus le coût du SMS, 3 SMS pour jouer, ou appelez le 39 21 50 centimes par minute. Si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez le tout nouvel iPhone XS. Bonne chance à tous. Il est 6h52. Mathieu Noël.
Oui, et Céline, contrairement à ce que vous me disiez durant la coupure pub, ce n'est pas le sosie de Nico Saliagas que vous avez aperçu là dans la vitre, mais bien le véritable, l'authentique Nico Saliagas. Élevé au tzatziki, frictionné à l'houmous dès son plus jeune âge, voici le débrief de la matinale de Nikos. Nikos qui va arriver. Nikos qui, culpabilisant d'avoir laissé entendre qu'Hélène Zélani, présentatrice du journal de 7h, était contemporaine de Vincent Auriol, tente depuis de se rattraper en multipliant les références à la jeunesse de cette journaliste. Alors attention Nikos, ne tombez pas dans l'excès inverse, ça va se voir aussi.
C'est cool de vous retrouver. Merci sister Hélène Zélani.
Wesh Kostis. Donc concernant le cahier des charges établi par Laurent Guimier, pour le point intitulé « Rattraper Skyrock en parlant plus aux jeunes », je me permets de mettre une petite coche verte pour dire « c'est bon, c'est même bat » comme disent les jeunes. Parmi les autres ajustements gagnants que vous avez effectués dans la matinale Nikos, mention spéciale au nouveau concept dit « du résumé du journal à la fin du journal » au cas où quelqu'un serait allé aux toilettes pendant le journal.
C'était le journal de Céline Kallmann. Qu'est-ce que vous retenez de ce journal, Céline? L'info la plus forte du journal.
Faut pas fumer de joint.
Voilà. Ah
bah. C'est pratique, ça fait comme ça, on peut aller aux toilettes pendant le journal, on a l'info importante à la fin. Le voilà qui arrive, Nikos, vous avez raté.
Pardon
le début.
Du retard.
Auran, en revanche, des inquiétudes, je me permets de vous... C'est dommage, vous avez raté les bons points. Je me permets de vous signaler ce double problème que présente depuis quelques jours le journal de 7h, de votre sister Hélène Zélani, qui contrevient à deux points très importants du cahier des charges de Laurent Guimier. Un, respecter la langue française en évitant d'inventer des mots qui n'existent pas. Et deux, ne jamais fricoter entre collègues, voire trois, surtout pas à l'antenne.
Amarcissage suivi par Rémi Botsaron.
Amarcissage, vous dites.
Bah, on ne dit pas atterrissage puisque c'est sur Mars.
Bien sûr, c'est la huitième opération. Ça vous dirait d'en faire une neuvième avec moi?
Eh bien, allons-y tout de suite.
Alors, moi, je vous conseille déjà de partir un petit week-end à Deauville. Vous voyez comment ça se passe. N'allez pas trop vite sur Mars. Heureusement, le 7-9 d'Europe 1, c'est aussi parfois écouter les consignes de la direction. Parmi ces consignes, celle de mettre en scène l'info pour créer soit un suspense, soit un effet de surprise. Et là, je dois dire que le message a été reçu 5 sur 5, comme on a pu le constater mardi avec un sujet sur lequel pourtant toute tentative de mise en scène semblait vouée à l'échec, le retour de la gastro. C'était sans compter le génie de Nico Saliagas, le George Lucas des pépins gastriques.
Quand même, soin de vos mains, lavez-les, car l'épidémie approche.
La guerre des étoiles, l'étoile mystérieuse. Vous n'aviez pas de musique? J'en ai mis une pour vous.
Elle est pas mal.
Non?
Pour annoncer le départ en fanfare de la gastro, je trouve que vous êtes assez inspiré.
Mais où allez-vous chercher ces idées, Nikos?
Je ne sais pas, c'est sorti tout seul.
C'est fou. Vous improvisez,
c'est sorti tout seul.
Et la guerre des étoiles arrive sur la gastro.
C'est plus fort que moi.
C'est très fort, c'est très très fort.
C'est un plaisir de se réveiller avec vous tous les jours à 5h sur Europe 1.
Plaisir
Eva Roque, Mathieu Noël, Céline Dacosta, bonjour.
Bonjour.